ainsi plus que nous avons un sous-race grand pape qui a traversé le ciel, Jésus, fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre, un souverain sacrificateur incapable de compatir nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en nous, comme nous pouvons, sans connaître de péché. Approchons donc avec assurance le trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Amen. Et on va parler ce matin du trône de la grâce. Trône de la grâce. On sait, je pense, à tous ce qu'est un trône. Il est le symbole, bien sûr, l'expression de l'autorité, du règne, d'un puissant, d'un souverain. Peut-être qu'en visitant un château un jour, vous avez pu vous asseoir sur le trône de Louis XIV, ou pas enfin, de Versailles, ça va être quand même. Mais peut-être dans d'autres châteaux, là, on se prend en photo, on s'admire pendant quelques instants, on est le roi, on est la reine, etc. etc. Et bien sûr, c'est. Ce trône utilisé généralement dans des moments solennels, dans des banquets, dans des actions de justice, et seul, hein, le roi, le souverain, bien sûr, avait le droit, a le droit encore aujourd'hui, puisqu'il y a des rois et des reines et des empereurs, a le droit de s'y asseoir. Et l'auteur des Hébreux ici nous parle d'un trône qui est unique, qui est tellement particulier, puisqu'il appelle le trône de C'est la seule fois dans l'Écriture où le trône de Dieu est associé et nommé le trône de la grâce. Et on va aborder bien sûr ce trône avec trois points. On va parler d'abord du trône de Dieu en général, par ensuite du trône de la grâce en particulier. Et puis on prend aussi un exemple, celui d'une reine, hein, la reine Esther. On va dans sa vie aussi ce qui va se passer par rapport à un certain trône. Alors, le trône de Dieu en général va. Une toute petite idée hein, de ce qu'on lit, de ce qu'on peut saisir par la foi, mais le trône de Dieu est bien au-delà, même et quand même. Hein, la Bible nous en donne quelques caractéristiques. D'abord, dans le psaume 93, hein, verset 2, Ton trône est établi dans les temps anciens, tu existes depuis toute éternité. Le trône de Dieu n'est pas fait de main d'homme. Pas un jour un habile menuisier céleste, un habile ange même qui l'aurait sculpté, l'aurait écrit. Non, il n'est pas fait d'une main même angélique. Le trône de Dieu bien, est éternel, il est attaché à sa personne, à son règne, à ses attributs. Et d'autres psaumes hein, nous le rappellent. L'éternel est sur son trône, l'homme déluge. L'éternel sur son trône règne éternellement. Je crois qu'il y a un autre verset, il me semble, qui nous parle de cette réalité. En tout cas, l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel à son trône, ça c'est la suite dans les cieux. En tout cas, ce matin, le trône de Dieu, il est éternel. Il est associé à notre Dieu. Et puis, le trône de Dieu, bien, il est établi dans le ciel, dans les cieux, dans le monde spirituel. On le sait. Et cette position, bien sûr, céleste, nous parle de sa totale autorité. Quelques versets qui nous le rappellent ce matin, donc, à travers cette psaume, où il est dit que le trône de Dieu, il est dans le ciel, il est dans les cieux. Et ce qu'il y a de plus, je veux dire, étonnant, c'est que les puissances infernales le reconnaissent. Savent très bien que ce trône, il est établi dans le ciel, dans les cieux, ils reconnaissent la puissance d'autorité. Plaise à Dieu que ce matin nous puissions aussi nous rappeler que notre Dieu est au ciel, il règne et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il a tout dans sa main. Les rois de ce monde, les empereurs de ce monde, il élève, il abaisse. En une fraction de seconde, eh bien, Dieu peut bousculer l'échiquier, on va dire, royal et impérial de ce monde. Parce qu'il règne. Son trône est dans le ciel, dans les cieux, dans le monde spirituel, et les autorités, les dominations le reconnaissent et s'y prosternent, bien entendu. L'Éternel est dans son temple, c'est le psaume 11:4, qui le rappelle, l'Éternel a son trône dans le ciel. Et puis, c'est un trône qui est saint, qui est glorieux, qui a l'image de Dieu. On a une toute petite idée, c'est Isaïe, vous vous souvenez, le prophète, qui va avoir une vision, il ne va même pas s'en approcher, il aura seulement une vision, il va voir. Quand on lit ce Ésaïe va écrire ensuite, c'est dans Ésaïe 6, l'année de la mort de roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé. Le roi va faire son vêtement, c'est le temps. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, l'un de ses rapins volait vers moi, tenant une braise et qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et dit : puisque ceci a touché tes lèvres, la faute est enlevée et ton péché est expiré. C'est déjà comme les prémices de Hébreux 4:16. Dans l'ancienne alliance, déjà, il y a ces prémices de pouvoir s'approcher du trône de la grâce avec assurance. En tout cas, à ce moment-là, la vision pour Ésaïe, elle est terrible. Elle est insupportable, elle est effrayante pour lui. Il a une vision de Dieu, de son trône, de son temple. Et cette vision est effrayante, bien entendu, parce qu'elle est marquée de sainteté, marquée de gloire, elle est marquée d'autorité, elle est marquée de majesté. Et on peut ajouter tous les adjectifs qui nous viennent à la tête. Et en même temps, en même temps, bien, cela renvoie à son humanité, à sa faiblesse, à sa détresse, à sa misère. Et il y a un tel écart, il y a un tel écart. Et ça y est, on est tremblant. Il dit, alors à moi, j'ai vu, je vais mourir. Elle est insupportable. Il y a le parallèle. Lorsque Pierre voit cette pêche qualifiée de miraculeuse, il va dire à Jésus, retire-toi de moi, je suis un homme plus jeune. Est-ce que Jésus va se retirer de lui? Pas bon. Est-ce que Jésus va dire, écoute, c'est vrai, Pierre, maintenant, je ne veux pas t'utiliser, pas du tout. Nous connaissons la suite. Pierre sera un instrument pour les mains du Seigneur. Et ce matin, peut-être, nous sommes comme Ésaïe, comme Pierre, et comme tant de fois nous sommes. Seigneur, retire-toi de moi, je ne mérite pas, je ne peux pas m'approcher, j'ai encore tant, tu vois mon comportement, mes pensées, les bonnes nouvelles, nous pouvons nous approcher de toi, nous pouvons avec assurance. Avec assurance. Ésaïe a été aussi purifié, et son âme a été restée. Et puis c'est un trône sur lequel Dieu va exercer ses jugements. C'est une vanité aussi. Dans Apocalypse 20, 11, 15, il y a cette réalité où il est question du trône blanc. Vous lirez, voilà, rapidement. Mais il est question, là aussi, des lits qui vont être ouverts, des questions des morts qui vont être rendues par la mer, par la terre, etc. Et Dieu va juger sur son trône. Qui va exercer ses jugements. C'est aussi un trône d'autorité. En tout cas, ces jugements sont pas pour nous, puisque nous serons avec Jésus dessus, mais c'est un moment où le Seigneur va exercer ses jugements. Et puis vous relevez également dans l'Apocalypse 4, on va le voir ce matin, il y a une description du trône de l'Éternel. Et encore, il y a ces milliards qui se portent, il y a ces gens. Je veux dire, on est dépassé. Jean va avoir cette vision extraordinaire. On pourrait dire que l'Apocalypse est aussi le livre du trône de Dieu. Plusieurs fois, il y a l'émotion de la gloire, de la puissance, de l'autorité, de la majesté de Dieu. Et si on veut être renouvelé, encouragé dans cette vision, bien, on peut relire l'Apocalypse sous cet angle. Découvrir tout à nouveau, eh bien, le trône de Dieu. Mais, effectivement, avec Ésaïe, avec tant d'autres, on pourrait se poser la question, qui peut s'approcher d'un tel trône? Qui peut s'approcher d'un tel trône et qui peut même en supporter à deux? Et s'il n'y a rien qui se passe, c'est-à-dire personne, nous ne pouvons pas même saisir une vision de ce trône qui est glorieux. Alors voilà pourquoi, dans Hébreu, il est question bien du trône de la grâce en particulier. Le trône de la grâce en particulier. Je dirais, c'est la seule fois où le trône de Dieu est qualifié de cette manière. Ce n'est pas qu'il a changé ce trône. Le trône de Dieu est éternel. Il ne change pas en fonction des âges, en fonction des cultures, en fonction des moments. Mais on va le voir, à un moment donné, bien, ce trône va être qualifié du trône de la grâce. Et il y a au moins deux éléments qui, ce matin, bien, nous le rappellent. D'abord, c'est la présence de Jésus à la droite du trône. Pour nous ce matin, approchons du trône de la grâce, le trône de la grâce, à devenir trône de la grâce, dire quand Jésus va accomplir son œuvre de grâce pour nous, quand Jésus va accomplir son œuvre dans le salut. Le prophète de Hébreux 4:16, c'est Jésus, c'est le grand souverain sacrificateur qui va traverser les cieux et puis donner sa vie pour chacun d'entre nous. Et Jésus dira lui-même dans Luc 4:18, il est venu pour proclamer en tant qu'une année de grâce. Une année de grâce. La présence de Jésus à la droite du trône de son Père céleste vient, fait devenir ce trône qui est glorieux, qui est saint, le fait devenir également trône de la grâce. S'il n'y avait pas la croix du trône de Dieu, bien la présence de Jésus sur ce trône resterait trône, éternel, saint, trois fois saint, etc. Mais il devient pour nous le trône de la grâce par la présence de Jésus. Trône de la grâce, parce que Jésus intercède ce matin en notre faveur. Romains 8, 34, il est assis à la droite de Dieu, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Et pour nous, ce trône devient trône de la grâce parce que Jésus intercède pour chacun de nous. Il y a la prière de l'Église et il y a la prière des Pères Saints. Mais c'est maintenant, rappelons-nous la prière de Jésus. Jésus prie pour nous. Je vais dire ça comme ça, c'est pas le mal, droit de prison. Jésus aurait d'autres choses à faire dans le ciel. Dès qu'il nous prépare la même place, il aurait d'autres choses à faire, mais c'est comme s'il y avait encore une tâche prioritaire qui est intercède pour nous. Voilà pourquoi ce matin, le trône de Dieu devient le trône de la grâce, parce qu'à sa droite, présence de Jésus, bien sûr, de sa prière, de son soutien, de sa grâce. Trône de la grâce, parce que Jésus a fait la purification de nos péchés. C'est Hébreux 10, 12 qui nous le rappelle. Lui qui a pas droit d'offrir un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et Jésus, par sa présence ce matin, nous assure de la purification de nos péchés. Il est celui qui a accompli cette œuvre. Et pour tous ceux qui s'approchent de lui, du trône, le trône devient le trône de la grâce. Parce que c'est par grâce que nous sommes purifiés, que nous sommes lavés. C'est par grâce qu'il a accompli cette œuvre pour nous. Et puis, dernier point, le maillot, c'est tellement un genre de bleu, trône de la grâce, parce que Jésus plaide dans notre faveur. Il devient notre avocat. Et lorsque Satan nous accuse, lorsque Satan aussi nous rappelle nos péchés, rappelle à Dieu nos péchés, il y a Jésus qui se tient à la droite de son Père et qui dit, en tant qu'avocat, qui plaide en tant que fils, celui-ci, celle-ci est mon fils et ma fille. Et dans cette vérité, elle est pardonnée, elle est lavée, elle est purifiée. Et le trône de Dieu devient pour nous le trône de la grâce. Il n'est pas le trône de la condamnation, comme le trône du jugement, comme le trône de l'homme. Il devient et il demeure le trône de la grâce. Si nous avons péché, nous avons un avocat, Jésus-Christ le Fils qui nous connaît Père, qui nous pardonne de nos péchés. Le trône de la grâce. Ce matin est une belle vérité. Puis, remarquons également que le trône de Dieu, il y a deux bases. Dans Psaume 89, verset 14, il dit que ce trône s'appuie sur la justice et l'équité. Sur la justice et l'équité. Et ce sont deux réalités également spirituelles qui sont fondamentales sur lesquelles la grâce de Dieu va s'accomplir. Donc, la grâce de Dieu va se saisir pour que ce trône de guette, vraiment le trône de la grâce. Équité et justice. Justice et équité. On peut dire une définition, c'est ça, la justice, elle s'exerce par rapport à la loi. Alors que l'équité, elle, s'exerce par rapport à l'individu. Un exemple. La loi prévoit des sanctions pour des excès de vitesse. Plus je roule vite, plus l'amende va monter. D'accord? Ça, c'est la loi, c'est juste. Donc, je roule. 5 km/h de 45 euros peut-être, à 200 il va y avoir un repère thermique, etc. Autre chose, mais ça c'est la loi. Par contre, vous pouvez dire que dans ce domaine, la loi n'est pas équitable. Parce que si je roule en Porsche ou en Mercedes, j'ai certainement les bons moyens pour payer une amende à 200 euros. Par contre, en deux chevaux ou en petite voiture, ils vont bouger peut-être plus serré. Et on pourrait dire qu'à ce niveau, c'est pas notre niveau, hein, c'est l'intérêt suggéré, comme la loi n'est pas proportionnelle aux finances, mais à la vitesse, eh bien, là, la loi n'est pas équitable et ne s'adapte pas aux besoins. Que vous soyez riche ou pauvre, vous payerez vos 200 euros la tombe. C'est la même chose pour tout le monde. La grâce, et là, c'est, je vais dire ça comme ça, c'est le dosage spirituel, subtil, personnel, qu'on ne peut pas remettre en question. La grâce, c'est ce mélange donc, qui appartient à Dieu entre la justice et puis l'équité. Dieu est juste par rapport à sa loi, mais il est aussi équitable. Il agit aussi selon l'individu. C'est lui qui est capable d'associer sa parole, sa loi, et puis de l'adapter à l'individu que nous sommes. Sans trahir sa loi, sans trahir sa parole. Mais il est juste, il tient compte aussi de nos besoins, il tient compte de notre parcours, il tient compte de notre culture, il tient compte de Dieu est équitable. Juste peut-être dans Romains 3, 23, je crois qu'on avait lu ce texte, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la justice de Dieu. Mais il est équitable. Ils sont gratuitement justifiés. Il n'y a pas justement là, dans ce domaine une amende à payer. Mais c'est gratuit pour tout le monde. Ça, c'est. Si les amendes étaient gratuites, bon, il n'y a plus lieu de faire dans les amendes. Mais il y a la justice et il y a l'équité. Ils sont justifiés par sa grâce. Nous sommes justifiés par sa grâce. Quand nous venons devant le Père, eh bien, nous sommes justifiés devant le trône de la grâce par la grâce de Dieu. Juste une remarque peut-être. L'équité, ce n'est pas l'égalité. Imaginez que j'ai 8 enfants chez moi, de 2 à 16 ans. J'ai 2 ans de mémoire. De 2 à 16 ans. Je dis, je vais être juste, je vais être égal. Je vais couper ma part de tarte en 8. Mais si je coupe ma part de tarte en 8, peut-être que c'est celui ou celle qui a 2 ans ne voudra pas. Par contre, celui qui a 18 ans, dans la nuit, il aura payé au bout de 2-3 parts. Alors, je vais être égal, mais ce n'est pas équitable. Parce que si je veux être équitable, eh bien, être équitable, ce serait diviser mon gâteau, ma part de pâte, en fonction des besoins de chacun. Peut-être que celle qui a besoin va rajouter la pâte, hein, voilà, elle est un petit peu plus dessus. Par contre, celui qui a 18 ans, eh bien, peut-être aura une part de plus importante en fonction de. Ça, c'est équitable. Et parfois, on va être égal. On n'est pas toujours équitable. C'est une notion. Et puis, le contraire de l'équité, c'est l'iniquité. C'est l'iniquité. Dieu est juste. Dieu est juste. Et j'aimerais vous rappeler simplement cette parole qu'on connaît tous, c'est dans la Bible. Pour l'équilibre parfait de la justice et de l'équité, Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. La justice de Dieu, il hait le péché, il le condamne. Mais son équité, c'est qu'il aime le péché. Amen. Ce matin, le trône de la grâce, bien qu'il est établi sur ces deux fondements, la justice et l'équité. Et on ne pourra jamais reprocher à Dieu de apparemment d'agir avec quelqu'un d'autre de notre manière que moi. Non. Dieu est juste, sa loi est la même pour tout le monde, sa parole mais il sera aussi équitable et adapté. Et adapté. Ça ne veut pas dire qu'il est prêté, ça veut tout simplement dire qu'il sera répondre à nos besoins. Et puis, on va terminer par un exemple, celui de la reine Esther. Vous connaissez Esther? Vous savez ce que ça veut dire, Esther? Qui c'est ce que ça veut dire, Esther? Non, vous m'en avez? Et toi? Non, parce que vous m'en avez, etc. Et toi? Une étoile, dit à ça, une reine. Et Esther 5:23, on va juste relier ce moment où, dans des circonstances particulières, bien, Esther va devoir s'approcher du trône du roi. Esther 5. 3 jours plus tard, Esther mit sa tenue royale. Elle se rend debout dans la cour intérieure du palais, devant les appartements du roi. Celui-ci était assis sur son trône royal dans le palais royal face à l'entrée du bâtiment. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle vient à sa faveur. Il lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait. Esther s'approcha, toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: « Qu'a facture elle seule et que des écus, même si tu déclares la moitié du royaume, elle te sera donnée. Alors, Marc de Chêne, si vous connaissez l'histoire, donc, a décrété d'exterminer tous les juifs du royaume, c'est le contexte, et Esther en est informée. Et la seule solution pour elle, bien sûr, c'est d'en parler au roi. Mais à l'époque, vous allez dire, c'est facile, hein. Il suffit maintenant de repas du soir, etc., que les enfants soient couchés, et puis d'en parler tranquillement autour d'une table de café au roi. Ah, c'est facile, parler au roi. Sauf que, mais à l'époque, c'est pas comme ça que ça se passe. La culture et le droit des femmes ne permettent pas à Esther de faire ce petit repas et puis attendre le café pour en parler à au roi son mari. Soit le roi convoque la personne, soit la personne y va de sa propre initiative, mais si le roi ne veut pas, il y a une chanson dans ce roi ne veut pas, la personne n'a le droit qu'à un ennemi, c'est la mort. Voilà, c'était comme ça. Sauf si le roi accepte et le prend de et c'est le bien de Esther. Est-ce que s'approcher du roi ou non, prendre le risque de mourir en cas de refus, que va-t-il se passer? Bien, le texte nous dit que Esther donc, va décider, elle va d'abord jeûner, elle va demander qu'on jeûne avec elle, et puis elle va s'approcher. Donc, et le roi, en voyant la reine, eh bien, aurait pu appliquer la loi, on parlait de mal, la faire mourir. Quelle audace de venir me déranger en plein conseil avec des conseillers, en pleine séance de travail, avec des conseillers quand même, ça se fait pas. Surtout, vous vous rappelez un petit peu de l'affront que la première dame avait fait à ce roi, lorsque le roi l'avait convoqué, qu'elle n'a pas voulu venir. Et à ce qui est vrai, on a dû garder cette mentalité. Non, c'est pas ce qui va se passer. Le roi, en voyant la reine, va devenir l'époux qui voit sa femme. Et instantanément, l'amour va remplacer la loi. L'amour va mettre de côté la loi. L'amour va effacer. L'amour va devenir l'argument d'accueil parfait, sublime. Et donc, vous allez prendre cette robe et accueillir, bien sûr, quelle image ce matin de la manière dont le roi des rois va et vient nous accueillir, nous approcher de lui avec assurance. Quand l'argument, quand la motivation est son amour pour nous accueillir. Jésus a dit d'une autre manière, je ne suis pas venu pour abolir, parce que je le répète, Dieu, dans sa grâce, va parfaitement conjuguer les deux. Mais Jésus va dire quand même, je suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et il va l'accomplir dans son amour pour nous. Il va l'accomplir dans l'amour du Père. Il va l'accomplir pour chacun d'entre nous. Quelle belle assurance ce matin. Et cette assurance ne devient pas de la haute opinion, peut-être, qu'on aurait nous-mêmes de temps en temps. Et cette assurance n'est pas non plus l'expression d'une certaine désinvolture. Moi, je me prends du trompe de Dieu, de toute façon, je m'accueille, je me défends, etc. Non. Cette assurance est nourrie par la foi, par la reconnaissance, par notre adoration que nous avons envers Jésus. Il est à la droite de Dieu et il a accompli là aussi que le trône de Dieu devienne le trône de la grâce. Le trône de la grâce. Il y a plusieurs passages là aussi dans l'Écriture concernant cette assurance. Mais Romains 8, 38, au moins, c'est de l'assurance qui est question ce matin. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les vocations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, et la suite elle est glorieuse, pourraient nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Ce matin, Dieu ne voit pas son Église, son épouse, sous le couvert de la loi, sous le couvert de la sanction. Il la voit comme un mari aime son épouse, il la voit comme un époux, sa fiancée aime sa fiancée. Et il accueille de cette manière. Comme le roi est devenu époux lorsqu'il a vu la reine, il a vu plus que la reine, il a vu son épouse, et il a formé bien sûr de cette manière. C'est de cette manière, ce matin, que Dieu nous accueille. C'est l'épouse que Dieu accueille. C'est le corps de Christ qui l'accueille. Et donc c'est chacun d'entre nous, sous le mouvement de ces paroles de Jésus lui-même, je ne suis pas venu pour Oui, les choses accomplies, puisque l'accomplissement se fait dans le monde. Alors, quels sont les bienfaits qui découlent de cet accord de ce roi, de sa reine, et surtout de cet époux, en fait, cette épouse? Il y a la même chose qui est décrite dans les Hébreux. Elle a obtenu compassion, elle a obtenu grâce, elle a obtenu secours, tout le monde, tout le monde. Obtenir compassion, obtenir miséricorde, recevoir de la compassion, recevoir de la miséricorde. Hein, littéralement, c'est obtenir un sentiment de bienveillance avec l'assurance d'être aidé dans nos souffrances. Parce que le Seigneur ce matin nous rappelle pas. Approchez-vous donc avec l'assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru par sa grâce au moment opportun. Ce matin, nous qui souffrons, nous qui avons besoin, nous devons même qu'il nous culpabilisons sur notre état spirituel, approchons-nous, afin de trouver miséricorde, afin de recevoir la bienveillance de Dieu. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Approchons-nous encore. Et puis, trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Non seulement il y a le sentiment que Dieu nous donne, nous communique le cœur de son âme, mais il y a aussi son action. Dieu ne reste pas indifférent et il agit, et il secoue, il bénit et il renouvelle. Alors, en conclusion, ce matin, je dirais Et votre accès, ce n'est pas une convocation, ce n'est pas une imposition, ce n'est pas une assignation, ce n'est pas à comparer. Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis une mise en demeure, une sommation, un ultimatum, un commandement. Non, mais votre accès, c'est votre. Voilà, il y a des mots qui nous. On couvre peut-être, mise en demeure, ou sommation, etc. Wow, ça s'appelle long, hein, quand on se lave des papiers, je ne dis pas des impôts, etc. Bon, et bien. Regardez ça, puis on efface tout ça. Et bon, 4-16, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est, si tu veux remettre ce qu'est Hébreux 4-16 à la fin, concernant donc la conclusion, c'est une invitation bienveillante. C'est une salutation divine. C'est un appel paternel. C'est une exhortation. C'est une inspiration profonde du cœur de Dieu. Et c'est aussi une promesse. Amen. Et pour qu'elle sache, c'est ça. Et ça s'adresse à chacun de nous ce matin. Approchons du trône de la grâce avec assurance. On termine par Apocalypse 3, 20, 21, avec cette belle déclaration. Voilà ce qu'il dit. On le cite souvent en évangélisation à ce beau verset, mais il est réalisé. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, vaincre sa peur, vaincre sa culpabilité, vaincre sa honte, vaincre sa réticence, vaincre sa une mauvaise conscience, vaincre son péché, eh bien, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône de grâce, sur le trône de la grâce, comme moi j'ai vaincu. Et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Celui qui vaincra, celui qui s'approchera, celui qui décide ce matin, malgré toutes les paroles adversaires, notre chat qui veut vaincre, approchons-nous encore et toujours du trône de la grâce. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et ça, c'est quand on sera dans le ciel. Mais pour l'instant, sur cette terre, nous devons approcher de Dieu. Alors que dans sa grâce, ce matin, Dieu renouvelle cette belle promesse, cette invitation solennelle, paternelle, exhortation, d'encouragement. Approche-toi de toi de la grâce. Ne laisse personne t'empêcher, même toi-même, même tes pensées, même ta volonté, même ta culpabilité, qu'elle soit d'un haut. Approche-toi. Ne laisse personne ce matin. D'empêcher, d'approcher du trône de la grâce. Amen. Est-ce qu'on peut prier quelques instants avant de partager encore de manière très concrète cet apport du trône de la grâce, de la sincère, mais de ce matin réaliser ces choses de manière glorieuse. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin pour ta parole, te rendons grâce de tout notre cœur pour le trône de Dieu. Seigneur, c'est vrai, ce premier glorieux, il est saint. Il est dans le ciel. Et de manière humaine, nous savons qu'il est inaccessible, il est effrayant. Alors tu as décidé, avec ton fils Jésus, de le rendre trône de la grâce. Trône de la grâce. Et nous te bénissons ce matin parce que, bien qu'à la droite de Dieu, il y a Jésus qui se tient et qui a fait devenir ce trône le trône de la grâce. Merci pour la justice, merci pour l'équité, qui sont également les bases de ce trône de la grâce. Ce matin, Seigneur, je prie pour tes bien-aimés qui peut-être hésiteraient, qui peut-être se disent « je n'en ai plus le droit » ou alors « je n'en suis plus digne ». Seigneur, nous prions ce matin pour que ces princes s'approchent et se rapprochent et reviennent encore avec assurance au trône de la grâce de Dieu. Amen. Ô Jésus plaide, ô Jésus à purifier, où Jésus sanctifie, où Jésus prie pour nous. Et nous te demandons ce matin que simplement nous puissions, dans la foi, dans l'assurance, nous approcher de ce trône de la grâce. Et que nous sommes avec nos faiblesses, avec nos chutes, avec nos écarts, mais nous nous approchons. Hein, qu'il n'y ait aucune domination, qu'il n'y ait personne, pas notre chef, qui puisse nous empêcher ce matin de nous approcher du trône de la grâce. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous prenons la Sainte Cène ce matin pour nous rappeler cette réalité où nous nous approchons du trône de la grâce. S'il y avait quelqu'un ce matin qui, là encore, aurait besoin d'être encouragé, de renouveler dans la prière, de dire, mon frère, ma soeur, viens, approche-toi. Cette parole, elle est pour toi ce matin. Ne reste pas. Je dis ça comme ça, assis, mais approche-toi du trône de la grâce, Seigneur. Là où vous êtes, là où tu es, bien, simplement de lever son bras. Oui, je vous ai vu. Oui, je vous ai vu. Oui, je vous ai vu. Que c'est vous bien. Oui, je vous ai vu. Oui, je vous ai vu. Amen. Amen. Seigneur, nous prions ensemble ce matin les uns pour les autres, les uns avec les autres, parce que ensemble et individuellement aussi, nous voulons approcher du trône de la grâce. Ce trône, Seigneur, n'est plus effrayant. Ce trône est plus inaccessible, ce trône est plus lointain. Seigneur, ce trône est devenu le trône de la grâce, de la miséricorde, du pardon, de la bienveillance de notre Dieu. Alors je prie pour ces bien-aimés, je prie Seigneur, pour que ce matin, il y ait à nouveau ce pas de foi, il y ait à nouveau cette approche spirituelle, et il y ait à nouveau, Seigneur, pour eux, cette démarche d'espérance. Merci pour ta parole. Elle n'est pas une parole de condamnation, elle n'est pas un ordre, elle n'est pas un ultimatum, mais une grande bénédiction, une sollicitation fraternelle et divine de ta part. Alors, ensemble, Seigneur, ce matin, nous te bénissons dans le beau nom de Jésus. Et nous croyons, Seigneur, nous croyons que tu vas secourir au moment opportun. Nous croyons, Seigneur, que tu vas fortifier. Nous croyons, Seigneur, ce matin, que tu vas renouveler parce que tu es le roi des rois, le Seigneur, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.